Bonsoir donc, bonsoir à tous. Donc, mon nom est Benoît Daviron. Je travaille au CIRAD, qui est un centre de recherche français de petite taille, qui est spécialisé sur l'agronomie tropicale. Je vais en dire deux mots parce que c'est un héritage de notre histoire coloniale, le CIRAD, qui a rapport avec le thème de la soirée. Je tiens à remercier d'abord les organisateurs de l'université de m'avoir invité, c'est très gentil de leur part. Donc le CIRAD, en fait, est un institut qui est basé à Montpellier, où il y a à peu près 1500 personnes qui travaillent, et qui a été créé en 82 comme la fusion de différents instituts qui existaient depuis la période coloniale, des instituts qui étaient spécialisés par plantes, dont un institut spécialisé sur le café et le cacao, qui s'appelait l'IRCC, qui a existé pendant une quarantaine d'années. Et donc, je suis donc clairement un héritage de cette histoire et en continuité avec ce que je vais vous présenter au cours de cette soirée. Je vais donc vous faire un exposé sur le café dans le cadre d'un cycle sur l'histoire coloniale consacré aux matières premières. J'ai restreint le sujet parce que c'était très vaste, en restreignant de deux points de vue ce que je vais raconter. D'un côté, je ne me suis intéressé qu'à l'histoire coloniale française. C'était difficile de couvrir le reste, surtout en longue période, puisque ça m'aurait obligé à m'intéresser à toute l'Amérique latine, par exemple. Et puis, je m'intéresse surtout, et c'est ce que je vais présenter, à la question du travail et l'organisation du travail dans la caféiculture et dans les caféicultures coloniales. C'est donc ce que je vais vous présenter, en ayant une approche de très longue période, en commençant au 18e et en allant jusqu'aux indépendances, donc jusqu'au début des années 60. Le café a beaucoup d'avantages, en fait, d'un point de vue pédagogique, quand on veut raconter des choses sur l'histoire et sur l'histoire agricole et sur l'histoire du commerce. Il a des avantages d'abord parce qu'il a une histoire relativement courte. Contrairement à des boissons comme le thé ou le cacao, le café n'a pas une histoire longue qui s'inscrirait dans une civilisation ancienne. La consommation de café, la production de café émerge d'après ce qu'on en sait à peu près au 15e siècle dans l'Empire ottoman. Le café étant une plante originaire d'Éthiopie, les premières plantations de café, elles, sont basées au Yémen. Et c'est donc autour du 15e à peu près que la consommation se développe dans l'Empire ottoman et va passer à partir du 17e environ en Europe. Avec donc un approvisionnement des quelques consommateurs européens qui viendra de l'Empire ottoman pendant presque un siècle, avant que les Européens mettent en place à leur tour un certain nombre de plantations caféières dans leurs colonies, d'abord plutôt vers l'Asie, à Ceylan en particulier avec les Hollandais, puisque Ceylan était hollandais à ce moment-là, et puis après beaucoup du côté américain. Et des Antilles en particulier, c'est par cette histoire-là que je vais commencer. Avant quand même de rentrer vraiment dans l'histoire coloniale, je voudrais présenter un certain nombre de petites choses qui me semblent utiles sur un certain nombre de notions techniques sur la culture du café et sur les différentes étapes que suit le café pour arriver jusqu'à nos tasses. Alors, je peux passer là-dessus. Donc, il faut que je fasse attention au temps. C'est donc ce que je vais commencer par faire ici. Donc le café, c'est une plante. C'est une plante donc originaire d'Éthiopie. Ça, c'est un caféier. C'est un caféier dessiné par Jussieu lui-même en 1713. Donc vous voyez, c'est une plante, on voit autour avec le grain, les fruits, qui constitue un arbre qui peut atteindre jusqu'à 6-7 mètres à peu près, qui est le plus souvent... et historiquement encore plus, le plus souvent cultivé sous ombrage. Vous voyez ici qu'on ne voit pas grand-chose, mais c'est parce que c'est sous ombrage, et donc la lumière est limitée. C'est aussi parce que j'ai repris cette photo d'un document ancien. J'ai essayé de mettre systématiquement des photos de documents anciens pour vous mettre dans l'esprit de cette histoire de la colonisation. On peut aussi le cultiver comme on cultive la vigne, par exemple, en France. C'est assez rare, c'est beaucoup plus rare. Historiquement, c'était beaucoup plus rare. Là, c'est des plantations brésiliennes, en fait, du début du XXe, où on avait là une culture vraiment industrielle, sans ombrage, avec donc un paysage de type industriel tel qu'on peut le voir dans certaines régions françaises. Le café donne donc, le caféier donne des grains de café, des cerises, en fait on appelle ça des cerises, qui sont, si c'était en couleur rouge, au moment où, elle, où les grains sont mûrs et où ils doivent être récoltés, qui sont donc sur la branche de l'arbre, et qu'on va récolter généralement en plusieurs passages pour s'assurer d'avoir des grains de bonne maturité, la maturité étant décisive dans la qualité, dans l'arôme du café qu'on aura à la fin. Attendez, ça ne va pas. Si, ça me va. Ces grains seront dépulpés et passés dans une machine qui va permettre d'avoir à la fin le grain de café en tant que tel. C'est-à-dire que la cerise en fait, de café présente une pulpe et à l'intérieur un grain de café. Et contrairement à la cerise qu'on mange en Europe, ce qui nous intéresse dans l'affaire, c'est le noyau. Ce n'est pas la pulpe. Et donc, on va dépulper ce grain de café, cette cerise de café, pour ne retenir que le noyau à l'intérieur qui est formé de deux grains de café. Il y a différentes techniques pour éliminer cette pulpe. On peut d'abord faire sécher le grain de café. J'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on reverra après sur un certain nombre de photos les installations que ça implique. On peut faire sécher ce grain d'abord et le dépulper ensuite, le décortiquer ensuite, ou bien on peut le dépulper d'abord, le faire sécher, puis le redécortiquer au besoin. Une fois qu'on est passé par cette opération de décortiquage puis de séchage, on a un grain de café qu'on appelle du café vert qui peut voyager, qui est le produit du commerce international. C'est sous forme de café vert que le café voyage et passe des pays producteurs aux pays consommateurs. C'est un produit qui peut se conserver assez longtemps, qui voyage assez bien et qui ne nécessitera juste que d'être torréfié, c'est-à-dire passé dans un cylindre qui sera chauffé, en gros, quelque chose d'assez simple, hein, pour aboutir au produit final qui est du café torréfié, qui sera moulu ensuite pour être consommé. Par rapport à d'autres produits, il est important de souligner et de constater que le café subit un nombre de transformations assez limité, c'est une filière simple, les opérations de transformation sont très simples, la torréfaction reste quelque chose de très simple. Finalement, le plus compliqué dans la technique de la torréfaction, c'est de faire les bons mélanges pour avoir un café qui aura un goût stable dans le temps. Mais la torréfaction en tant que telle est quelque chose de très simple. Et je ne sais pas, vous avez peut-être vu trouver ça dans les vieilles maisons, des cylindres qu'on mettait devant les cheminées à faire tourner. Et c'est un produit qui, par ailleurs, a connu très peu d'innovations techniques dans la longue durée, d'une façon. Très peu d'innovations techniques, que ce soit au niveau de la production, au moins jusqu'aux années 70, c'est-à-dire que on a très peu de mécanisation. La mécanisation de la culture est très récente. Elle date même plutôt des années 80-90, où on a eu un début de mécanisation dans des pays comme le Brésil ou l'Australie. Et du côté de la consommation, on a eu très peu de changements. C'est-à-dire que le café, c'est une boisson chaude qu'on boit, point. Ça peut sembler bête de dire ça, mais pensez à un produit comme le maïs ou le sucre, où les usages sont multiples, où on a eu des tas de nouveaux produits qui ont été créés, de l'éthanol, du plastique, des tas de choses qu'on peut faire avec du maïs ou du sucre. Avec du café, on fait une boisson chaude qu'on boit. La seule innovation qu'on ait connue dans le domaine du café, à la limite, c'est le café soluble, qui est apparu dans les années 40-50, hein, à partir de la technique de solubilisation du lait, de séchage du lait. Mais c'est une innovation marginale, on pourrait dire, et qui occupe une place assez faible dans la consommation, et en fait, de plus en plus faible. Donc on a un produit, et ça c'est intéressant pour les gens qui font de l'histoire, qui, d'un point de vue technique, a connu peu de changements, peu de ruptures majeures, et donc on peut pas tellement se réfugier dans la technique pour expliquer les changements. Les changements qu'ont connus l'histoire du café sont avant tout des changements institutionnels, des changements sociaux, qui sont le produit de l'action des hommes, et certainement pas de la technique ou le résultat de la technique. Alors, cette brève introduction sur les éléments techniques du café est en fait, je vais donc vous parler ce soir de trois situations coloniales françaises qui se sont succédées dans le temps, dans lesquelles la culture du café a joué une place plus ou moins importante. Saint-Domingue, d'abord, je commencerai par Saint-Domingue, au XVIIIe. J'aborderai ensuite la question de l'Indochine à la fin du XIXe, début XXe. Je passerai vite là-dessus, parce que l'affaire est un peu anecdotique, mais elle m'intéresse pour un certain nombre de points sur lesquels je reviendrai. Et puis enfin, la Côte d'Ivoire, entre 1930 et 1960, j'aurais dû mettre plus exactement. Donc, juste avant les indépendances, où là, on a eu de nouveau développement d'une caféiculture dans le cadre colonial. Cette succession de situations reflète bien en même temps la discontinuité de l'histoire coloniale française. L'histoire coloniale française n'est pas du tout continue. Il y a une première vague de colonisation, mais pas seulement française, européenne. Il y a une première vague de colonisation qui concerne avant tout les Amériques, mais pas seulement les Amériques, mais on pourrait dire les îles, beaucoup des territoires insulaires avant tout, qui portent sur le 17e, depuis Colomb jusqu'au 18e, disons, Christophe Colomb jusqu'au 18e. Le 19e étant plutôt un trou dans l'histoire coloniale française, et on le verra à propos du café dans les colonies françaises. En dehors de la conquête de l'Inde par les Anglais, le 19e est plutôt un trou avec un réveil du mouvement colonial et du processus colonial européen à la fin du 19e, avec en particulier la colonisation du continent africain, qui donnera naissance à de nouveaux terroirs, comme les terroirs caféiers de Côte d'Ivoire. Je commence donc par Saint-Domingue, à la fin du 18e. Donc vous voyez que Saint-Domingue est de loin la première île exportatrice de café vers l'Europe, dans les colonies françaises. D'autres îles produisent du café, mais Saint-Domingue est de loin la principale. Et c'est la première île productrice de café, c'est la première région productrice ou zone productrice de café, même à l'échelle du monde. On considère qu'à la fin du 18e, Saint-Domingue devait fournir environ la moitié du café consommé en Europe. Donc c'est un gros pôle de production caféier qui est à Saint-Domingue. C'est en particulier une culture qui s'est beaucoup développée, donc assez tardivement, de l'histoire de Saint-Domingue, hein, puisqu'elle se développe pour l'essentiel dans la deuxième moitié du 18e siècle, et de manière quand même très impressionnante, comme le montrent les chiffres. À Saint-Domingue même, c'est une culture secondaire par rapport au sucre, hein, le cœur de l'activité de Saint-Domingue est le sucre, mais le café occupe une place tout à fait importante, et Saint-Domingue, je le redis, est la première région de production de café avant 89. Ah ben voilà, il atterrit là, ce fruit de café, d'accord, bon, très bien. Je le cherchais tout à l'heure, tant pis pour lui. Donc, je passe là-dessus, simplement juste pour vous rappeler la forme de Saint-Domingue, de l'île de Saint-Domingue, et pour insister sur le fait que les Français n'ont à ce moment-là que la partie ouest de l'île, une petite partie qui est à l'ouest, hein, toute l'autre partie étant Hispaniola, étant sous contrôle espagnol. En fait, les Français ne contrôlent à peu près qu'un petit tiers, on pourrait dire, voire un quart de l'île, tout ce qui est le côté ouest. Alors, on a un certain nombre de gravures, de représentations qui nous montrent la culture du café dans ces périodes-là. Je ne crois pas qu'on puisse trop s'y fier pour avoir une idée à peu près précise de la culture du café à Saint-Domingue. Je vous la montrais juste pour le côté un peu exotique, on pourrait dire, hein, ce côté un peu bucolique que présente la gravure du café. Et en fait, je vais en partie et en bonne partie m'appuyer pour cette présentation sur un manuel qui existe depuis cette période-là, qu'on a la chance d'avoir grâce à monsieur donc Laborie, qui était planteur de café à Saint-Domingue, et qui a été, comme beaucoup de planteurs de café et de sucre à cette époque-là, a été expulsé de Saint-Domingue suite à la révolte des esclaves, s'est réfugié à la Jamaïque, et a considéré que, en service à la Jamaïque, pour rendre service à la Jamaïque, compte tenu du bon accueil qu'il avait reçu, il fallait qu'il rédige un manuel sur la culture du café, comment être un bon planteur de café, basé sur son expérience de Saint-Domingue. Ce document est intéressant parce qu'il rentre assez dans les détails de la façon dont le café était cultivé, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue social, pratique, etc. Et en fait, c'est un document qui va servir de référence pendant pratiquement un siècle pour beaucoup de planteurs de café. Et c'est un document qui a été réédité régulièrement, c'est un livre qui a été réédité régulièrement, qu'on retrouve réédité par exemple à Sri Lanka, pratiquement à la fin du 19e siècle. Donc ce qui va servir de norme, on pourrait dire, de ce que c'est qu'une plantation, de ce qu'est une plantation de café, une grande plantation de café. Alors, monsieur Laborie avait sa plantation dans la région nord de Saint-Domingue, qui était vraiment le cœur de la production caféière de Saint-Domingue, en particulier dans un village qui s'appelait Borgne, qui est tout au nord, en face de cette petite île que vous voyez au nord de Saint-Domingue. Un des intérêts de ce livre, c'est de nous donner un certain nombre de plans assez précis qui permettent d'avoir une idée assez bonne de l'organisation que pouvait avoir une plantation caféière à l'époque, qui était une plantation, donc dans ce cas-là, qui faisait à peu près 200 hectares de café, Et ce que nous montre surtout ce premier plan, c'est qu'on avait un investissement en termes de bâtiments, en termes d'équipements, qui était très lourd. La culture du café était une industrie, on pourrait dire, lourde, de la même façon que le sucre l'était aussi à cette époque-là. On avait des établissements, des habitations, comme on disait à l'époque, qui étaient sans doute, à l'échelle du monde même, des entreprises qui étaient dans les plus grandes en termes de taille d'entreprise, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de personnes employées, qui étaient dans les plus grandes et bien plus grandes que ce qu'on pouvait trouver à la même époque dans le secteur manufacturier. On a ici donc un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais insister. On a d'un côté, donc on voit bien au centre de la plantation, c'est le modèle même de la plantation, on a la maison du maître. Est-ce que je vais arriver à stabiliser ce petit crayon rouge ?
La maison du maître ?
Qui servait aussi au stockage du café décortiqué, pour être maintenu à l'abri, hein, et à l'abri et protégé sous le regard du maître, on pourrait dire. On a ici toutes les habitations des esclaves, toutes les maisons des esclaves, sur lesquelles je reviendrai, sur la question des esclaves, bien sûr. On a ici une très grande surface, qui est la surface utilisée pour le séchage du café, qui était des grandes surfaces cimentées, mais vous en verrez des photos plus loin. Ici, des jardins potagers, un jardin qui servait pour produire l'alimentation de l'habitation, de la plantation. Ici, un verger qui servait aussi pour l'habitation. Ici, un hôpital, ce qu'on appelait l'hôpital, en fait, qu'on trouvait dans pratiquement toutes les plantations, qui était l'endroit qui servait à accueillir les esclaves malades, mais qui était aussi, en même temps, on pourrait en discuter, mais un endroit d'enfermement, en fait, pour les esclaves. Vous avez ici, dans le coin en haut à droite, vous avez un volailler, etc. Une des logiques de l'habitation caféière, mais qui était aussi la logique de l'habitation sucrière des Antilles, c'est l'autosuffisance. Les habitations, les plantations produisaient l'essentiel, vraiment pratiquement la quasi-totalité de leur nourriture, en particulier des légumes, du manioc, de toutes ces tubercules que consommaient les gens à l'époque. Produisait aussi des fruits. Les seules importations alimentaires de ces plantations étaient pour l'essentiel ou de la viande séchée, ou un peu de morue séchée, ou de morue salée, hein, sachant que les Antilles ont effectivement constitué un des gros débouchés pour l'activité de morue, de pêche à la morue qu'on a eue dans tout le nord du monde à une époque. Alors, on a un certain nombre de gravures, là encore, qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus claire de ce que c'était. Vous voyez ici de nouveau l'importance et la place qu'occupaient ces séchoirs à café. Hein, on utilisait le soleil pour sécher le café et les séchoirs jouaient une place très importante. On a quelques photos. Alors là, je triche un peu parce que je sors de Saint-Domingue. C'est une photo d'une plantation jamaïcaine et de la fin du 19e siècle. Mais vous voyez ici donc ces différents séchoirs, hein, utilisés. Vous voyez aussi la maison du maître en haut à gauche, au milieu de la forêt. Vous voyez le bâtiment qui servait en haut à droite pour la transformation et l'usinage du café. Donc on voit bien ces séchoirs que les Anglais appellent dans ces colonies-là les barbecues. Alors là, je triche encore un peu plus, mais cette photo me semble intéressante parce qu'elle se rapproche beaucoup du plan que nous fournit Laborie sur le café de Saint-Domingue. C'est une photo, en fait, d'une grande plantation, je triche doublement parce que c'est une grande plantation de cacao à Saint-Thomé au début du XXe. Mais l'avantage de Saint-Thomé est de nous offrir un espèce d'écomusée de ce qu'était l'économie de plantation, de ce qu'étaient les habitations et les plantations au XVIIIe, au XIXe. Saint-Thomé est resté pratiquement inchangé, et presque jusqu'aux années 70, d'une certaine façon, 1970, hein, je veux dire, avec ce système de grandes plantations, d'énormes plantations, où vous voyez l'ampleur, le nombre de bâtiments, la quantité de bâtiments, l'ampleur des investissements donc réalisés autour de la culture. Et là, il s'agit du cacao à Saint-Thomé. Une des particularités que j'ai déjà évoquées, évidemment, de cette culture du café à Saint-Domingue, c'est d'être une culture de grande plantation esclavagiste, avec une population d'esclaves qui est extrêmement importante. Et vous voyez ici un rapport entre le nombre de blancs, c'est les termes, hein, employés formellement dans la discussion de l'époque, mais dans par les historiens aussi. Donc un rapport entre les effectifs de blancs et les effectifs d'esclaves extrêmement disproportionné. On a 20 esclaves pour un blanc pratiquement à Saint-Domingue. La population d'esclaves s'est en particulier beaucoup accrue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et en bonne partie avec le développement de la production de café, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette croissance très forte de la production de café. La production de sucre étant, elle, déjà très bien installée au milieu du XVIIIe, et c'est beaucoup plus le café qui va tirer cette croissance des effectifs d'esclaves sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Petite incidente, mais que vous connaissez sans doute déjà, mais l'esclavage n'a pas toujours été nécessaire aux plantations. Et les plantations, au XVIIe siècle en particulier, se sont initialement constituées, non pas sur des esclaves africains, mais sur ce qu'on appelait des engagés, qui étaient des Européens, des Français ou des Anglais ou des Allemands, qu'on appelait les engagés dans les Antilles ou les 36 mois, à qui on payait le voyage, moyennant l'obligation de travailler pendant 36 mois pour une plantation. Mais ces gens-là n'étaient pas des esclaves en tant que tels. Au bout de 36 mois, ils retrouvaient toute leur liberté, mais pendant les 36 mois de leur contrat, ils pouvaient être vendus à une plantation ou à une autre, ils pouvaient circuler, ils étaient vendables. On a donc, finalement, l'esclavage noir s'est plutôt engouffré dans quelque chose qui préexistait à l'esclavage noir, à l'esclavage africain, dans le cas des Antilles, et qui s'était constitué au départ sur une population européenne, sur une population française en bonne partie dans le cas de Saint-Domingue. Alors, il est clair que dans ce contexte d'une production qui repose sur un très grand nombre d'esclaves, avec dans les plantations souvent 200 esclaves pour un planteur, la question du contrôle des esclaves est centrale, la question de la surveillance, de l'organisation du travail des esclaves est centrale. Alors, une fois de plus, Monsieur Laborie nous fournit un certain nombre d'informations tout à fait intéressantes sur la façon dont était organisé ce contrôle des esclaves, dont fonctionnait la hiérarchie de ces plantations en particulier. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre en ce transparent. Vous voyez que dans le chapitre 4 de son ouvrage, il rend compte, dans des termes très crus, du gouvernement. Le chapitre 4 est consacré à la fois au gouvernement et aux soins des Noirs et du bétail. Ça vous donne une bonne idée de la façon dont la question a été considérée. Et c'est vraiment ça qui ressort dans les écrits de ce monsieur, hein, mais c'est un constat banal de l'époque, c'est qu'effectivement, la question de la gestion des esclaves est une question de gouvernement en partie proche de celle du gouvernement du bétail. Et donc, dans ce chapitre 4, il traite des différentes situations, des différents types d'emplois utilisés par les esclaves. Donc, du choix des esclaves, est-ce qu'il voulait prendre des esclaves de Guinée, etc. Des esclaves qui étaient maçons, des esclaves qui pouvaient être charpentiers, des esclaves conducteurs de mules, des esclaves qui pouvaient être matrones dans les hôpitaux, pour finir à la fin, des enfants, etc., sur les animaux, effectivement, les mules, les chevaux et compagnie, avec quelques lignes à la fin, touchantes, sur le chien et les chats, nécessaires pour la vie d'un planteur si isolé dans sa plantation, perdue à Saint-Domingue. Et là, c'est le moment d'attendrissement, effectivement, de son chapitre sur le gouvernement des hommes et du bétail. Une des particularités, évidemment, de cet univers de la plantation esclavagiste, c'est l'extrême hiérarchie qui existait dans ces plantations et la multiplicité des couches hiérarchiques qui pouvaient exister pour les faire fonctionner. On avait des procureurs qui, en fait, avaient mandat de gestion qui généralement géraient plusieurs plantations au bénéfice de propriétaires de plantations qui pouvaient être ou dans la capitale ou carrément en France. En dessous de ces procureurs, on avait ce qu'on appelait les géreurs à l'époque, qui étaient, on dit overseas en anglais, c'est-à-dire vraiment les gens qui étaient dans la plantation et qui avaient la gestion de la plantation en tant que telle d'une plantation donnée. En dessous de ces géreurs, on avait des intendants, deux, trois intendants suivant la taille de la plantation. Et enfin, en dessous, rôle très important, ce qu'on appelait les commandeurs, qui étaient les responsables vraiment de la surveillance du travail au champ, qui étaient munis d'un fouet, hein, comme il se doit, et qui surveillaient donc très précisément les esclaves au champ, qui étaient très souvent et de manière systématique à la fin du XVIIIe siècle, qui étaient eux-mêmes des esclaves. Des esclaves qui étaient là depuis longtemps, mais qui n'en étaient pas moins des esclaves. Et qui contrôlaient les autres esclaves. Alors, un certain nombre de caractéristiques de la plantation étaient clairement organisées autour de ce problème de contrôle, de surveillance du travail. Là, j'ai repris un travail d'un auteur anglais sur les plantations de Jamaïque à nouveau, mais où il montre bien comment la maison de l'overseas, c'est-à-dire du gérant de la plantation, était organisée avec différents balcons pour avoir ce regard sur le maximum d'espace de la plantation, pour pouvoir contrôler visuellement cette plantation. Mais au-delà de l'aspect architectural, ce qui était vraiment constitué le cœur du contrôle des esclaves dans la plantation et en particulier au champ, c'est le système du travail en brigade, en gang, hein, comme on dit en anglais, où vous voyez ici clairement comment les esclaves... Alors, ce ne sont pas des esclaves. Hein, là, on est à Haïti dans les années 40, donc ça n'a rien à voir avec des esclaves, mais... C'était la photo qui me semblait la plus parlante. J'ai des gravures qui représentent exactement la même chose. C'est une image que vous retrouvez à propos de la caféiculture antillaise, à propos du coton américain, à propos du sucre. C'est une image vraiment standard de la plantation esclavagiste, quelle que soit la culture appliquée. Cette ligne de travailleurs avec leur houe avançant du même pas, généralement au rythme du fouet, mais aussi d'un tambour ou d'un instrument de musique qui va rythmer le travail. Et c'est vraiment la technique de base pour contrôler au champ le travail. Sachant que la houe était un des instruments vraiment central, à la fois en caféiculture ou en culture de sucre, c'était l'instrument de base des esclaves. Et cette image est vraiment l'image qu'il faut avoir, je pense, de la plantation esclavagiste et de ce que ça pouvait donner au champ. Donc le travail en gang, en brigade, est au cœur de l'affaire. Et une brigade, un commandeur, là on peut imaginer le commandeur devant cette ligne de travailleurs. Ça nous donne une représentation très proche de ce que pouvait être le fonctionnement d'une plantation caféière au XVIIIe siècle. Travail en gang, là je triche toujours un peu pour avoir des photos. Là il s'agit de la Réunion, de l'île de Bourbon, comme on disait à l'époque. Dans les années 1840, où vous voyez cette ligne d'esclaves qui va partir là, non pas cultiver à la houe, mais qui va partir récolter avec les grands paniers plats qui servent à récolter le café. Donc travail en groupe, toujours travail en bande. On considérait en gros qu'il fallait un commandeur pour 30 à 40 travailleurs dans une plantation. Ça voulait dire que dans une plantation standard de 100 travailleurs, 100 esclaves, on avait 3 à 4 commandeurs qui surveillaient en permanence le travail au champ. Sachant que ce travail de surveillance est bien plus compliqué dans la caféiculture que dans la production sucrière, puisque, je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure, mais le café est une culture, en particulier le café arabica, qui est le café de Saint-Domingue, est une culture de collines, de montagnes, de moyennes montagnes, on cultive le café entre 1000 et 1500 mètres. Et donc, on a des espaces fracturés, vallonnés, et donc avec un problème de surveillance visuelle beaucoup plus important que dans le cas de la production sucrière, où là, on avait, a priori, ou de la production de coton, où on pouvait voir plus facilement les gens travailler. Dans le cas du café, il y a un problème vraiment technique visuel de surveillance du travail. Alors, donc toujours ce travail en collectif. Alors là, de nouveau, je triche un petit peu parce que là, on est de nouveau, je crois qu'on est à la Jamaïque dans les années 1850. J'ai mis cette photo-là. Ce ne sont pas des Africains qui sont sur la photo, ce sont des Indiens. Mais ça permet de faire la transition avec ce qui va venir après. Après l'abolition de l'esclavage au début du 19e, plutôt dans les colonies anglaises que les colonies françaises, une partie de la main-d'œuvre esclave, une grosse partie dans les Antilles a été remplacée par de la main-d'œuvre indienne. C'est pour ça qu'on a des grosses communautés indiennes dans les Antilles. Dans le cadre de ce qu'on appelait l'indenture labor, qui était en fait un travail, l'équivalent des engagés européens dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qu'on recrutait en payant leur voyage et avec l'obligation de travailler, suivant les endroits, 3 à 5 ans sur la plantation, avec un statut qui était, au bout du compte, des conditions de travail qui étaient très proches des conditions esclaves. Et ce système de l'indenture labor, qui a fait migrer d'énormes quantités, des effectifs très importants d'Indiens, et principalement d'Indiens, mais aussi de Chinois, donc dans différents endroits du monde, dans différentes zones tropicales du monde, c'est ce qui a permis à ces plantations esclavagistes de perdurer sans trop de difficultés durant toute la durée du XIXe siècle, pour une partie. Dernière photo là sur l'organisation du travail donc dans les plantations. Là, vous voyez un séchoir. Je pense qu'on est aussi dans l'île Bourbon, donc à La Réunion au début au milieu du 19e. Vous voyez toujours ce problème. Donc là, vous voyez les séchoirs, toujours ce problème de surveillance. Si vous regardez bien, vous avez sous le parapluie, à l'ombre, de ce côté-là, quelqu'un qui surveille, effectivement, qui est là pour surveiller que le travail est bien accompli sur ces séchoirs à café. Donc voilà la première phase de... La première histoire, on pourrait dire, vraiment importante liée à l'histoire coloniale française, c'est Saint-Domingue, qui va totalement disparaître, Saint-Domingue, puisque, comme vous le savez, il y a une révolte d'esclaves qui a lieu autour de 1790, après la Révolution française, et qui va amener à l'expulsion de tous les Français, de tous les Blancs de Saint-Domingue, pratiquement, et à l'indépendance de Saint-Domingue, qui va devenir Haïti, à partir de, je ne voudrais pas vous dire, je crois que c'est 1804, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 1804, l'indépendance d'Haïti. Partant de là, la production de café va progressivement décliner, elle va survivre, mais Saint-Domingue, devenu Haïti, perdra l'importance que pouvait avoir cette île dans la production de café à l'échelle du monde. Et la France perdra une bonne source de son approvisionnement historique, et en particulier de son approvisionnement colonial. Mais ça, j'y reviendrai après. Alors, deuxième lieu, excusez-moi, je surveille l'heure. Oui. Deuxième lieu, donc l'Indochine, fin 19e. Alors, de nouveau, là, je vais le redire, cette affaire indochinoise est un peu anecdotique, parce que l'Indochine n'a jamais représenté une très grosse part de la production de café, ni coloniale, ni mondiale, ni de l'approvisionnement français. Mais ça m'intéressait de vous le présenter d'une part, parce que, comme vous allez le voir tout de suite, j'ai une série de photos qui viennent de la photothèque du CIRAD qui sont assez jolies, on va dire. Donc c'était l'occasion de vous les présenter. Et puis, ça me permettra de pointer un certain nombre de choses qui sont récurrentes dans toute cette histoire de café et dans cette histoire de café colonial. La première chose qui m'intéressait de montrer avec ça, c'était que on a, avec cette caféculture indochinoise, donc dans l'Indochine française, en fait, une illustration de l'existence, de la création de toute une économie de plantation sur la base de salariat et non plus de travail esclave, qui se met en place en Asie du Sud-Est entre la fin du 19e et le début du 20e, et qui va jouer un rôle très important dans la suite de l'histoire, très important pour les marchés de produits tropicaux, et qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est pratiquement la seule zone, on pourrait dire, en zone tropicale, où se soit maintenu, où se soit constitué et maintenu, jusqu'à l'époque actuelle, un pôle de grandes plantations qui a plutôt prospéré au XXe siècle. Pas tant sur le café qu'on a ici, mais beaucoup plus sur le caoutchouc. Hein, par exemple, le caoutchouc en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam, enfin en Indochine, dans l'Indochine à l'époque des Français, est une illustration de ça, mais aussi plus récemment aujourd'hui, et en particulier aujourd'hui, en palmier à huile, c'est un héritage de cette économie de plantation à base de salariat qui se met en place au tournant du XXe. Ce qu'on peut voir ici, et je passe vite, mais juste trois petites choses que je voulais aussi montrer sur cette photo. C'est d'une part le fait qu'on a affaire sans doute ici, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Indochine, mais à des gens, vous voyez, à des femmes qui travaillent dans cette caféière, qui récoltent le café, à des femmes qui sont sans doute d'une ethnie montagnarde. Je reviendrai là-dessus, mais il n'y a pas de café et de caféiculture historiquement sans migration et sans déplacement de population. Et ici, vous avez visiblement une ethnie montagnarde qui a été déplacée, qui a été apportée. Je ne sais pas comment, je ne connais pas le détail de cette histoire-là, hein, mais qui a été amenée dans cette région où s'est constituée une plantation européenne de café. Bon, vous voyez toujours ici, là, ce type, le problème de la surveillance, hein, ce type avec son casque colonial, là, donc qui est en train de regarder que la production se passe bien. Donc c'est une permanence, hein, une constante. Et là, on n'emploie pas de personnel indigène, comme on disait à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, mais là c'est un blanc qui fait ça, un Européen. Dernière chose importante que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était ces arbres, ces troncs d'arbres à moitié brûlés. J'y reviendrai là-dessus, mais vous voyez, c'est quand même impressionnant comme paysage. On a une plantation de café qu'on a constituée très peu de temps après avoir mis le feu à la forêt, en fait. On ne s'est même pas donné la peine d'arracher ces arbres. C'est vrai que c'est énormément de travail d'arracher les arbres. Et là, c'est une constante sur laquelle je reviendrai en conclusion, mais le café, pas seulement colonial, mais le café en général, est une culture de front pionnier. est une culture qu'on installe sur de la forêt vierge, généralement en ayant mis préalablement le feu à cette forêt. Et là, vous en avez vraiment une belle image. Hein, et vous voyez d'ailleurs, en fait, derrière, on voit encore qui reste de la forêt vierge. Je dis vraiment du mal à ce truc. Voilà, par là. Mais vous voyez, on a la représentation visuelle de cette culture de café sur forêt vierge. Bon, je passe ensuite rapidement, c'est pas nécessaire. J'ai dit ce que je voulais dire en gros sur l'Indochine. Vous voyez ici donc une belle photo aussi, me semble-t-il. Hein, c'est des daguerreotypes, ça je crois qu'on a. Donc de la récolte de café dans une plantation, le chien hein, de la plantation, comme il se doit. Le traitement du café dans une petite installation de décorticage. Le lavage du café, l'importance des femmes hein, dans la situation indochinoise, l'importance des femmes sur toutes ces plantations. Le séchage du café avec un très beau séchoir, là, impeccable. Ça doit être des hommes, là, qui passent leur journée en fait, à déplacer le café, à pousser le café pour le faire mieux sécher hein, avec des espèces de râteaux. Ça, c'est une image qu'on retrouve dans énormément d'endroits en situation de plantation. Et enfin, la dernière scène, c'est la scène de tri du café, hein, qui est une étape importante. Il faut trier le café, retirer le café abîmé, le café noir, etc., pour avoir un café le plus propre possible à l'exportation. Et là encore, un travail essentiellement de femmes, on le voit ici, sur ce gros tas de café. Donc je passe là-dessus, c'est anecdotique, je le redis, l'Indochine n'a jamais représenté une part importante de la production de café. J'avais été tenté de vous présenter, en fait, j'ai récupéré un très joli document qui est un extrait de l'éveil économique de l'Indochine de 1928, qui rend bien compte, avec pas mal de photos, d'un projet de plantation qu'avait en 28 un entrepreneur français qui voulait faire une plantation, qui a fait, je pense, une plantation de 6000 hectares de café à l'époque dans le nord de l'Indochine. Mais en fait, la guerre est arrivée très vite. En 28, les Japonais ont envahi l'Indochine en 41 ou 42. Et après, dans le nord, les Français n'ont jamais pu reprendre pied dans le nord de l'Indochine. Et donc, cette affaire caféière indochinoise a avorté très vite du fait des événements qui dépassaient largement la caféculture. Je peux donc passer à ma dernière étape et parler de la Côte d'Ivoire. Alors, on voit bien ici avec ce graphique à quel point effectivement l'histoire coloniale française est hachée. Finalement, ce tableau rend bien compte du caractère haché de l'histoire coloniale française. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc Saint-Domingue à une époque a représenté l'essentiel de l'approvisionnement de l'Europe, 50%, mais sans doute beaucoup plus que ça dans le cas français. Et vous voyez qu'en 1890, l'approvisionnement de la France en provenance des colonies est tombé à 0% pour ce qui est du café. 0% en 1890, ça remonte un petit peu dans la période actuelle, mais on est vraiment très bas. C'est-à-dire que la France, jusqu'en 29, alors ça dépend un peu des produits, j'ai mis le sucre, ce qui complique un peu la chose, parce que le sucre est une activité antillaise qui va continuer d'approvisionner la France de manière importante. Et puis surtout, la France est devenue presque autosuffisante en sucre au 19e siècle grâce au développement de la betterave. Mais vous voyez que jusqu'en 1913 au moins et 29 pour ce qui est du café, la France ne s'approvisionne pas sur ses colonies. La France s'approvisionne en Amérique latine comme tout le monde, principalement comme tous les Européens. Et donc les marchés de produits tropicaux du 19e siècle et du début du 20e sont pas des marchés coloniaux, sont pas des espaces coloniaux. C'est des échanges entre des nations souveraines, les nations d'Amérique latine, qui ont acquis leur indépendance entre 1815 et 1820, pour la plupart d'entre elles, au moment des guerres napoléoniennes, et d'autres nations souveraines qui sont les nations européennes. La question de l'approvisionnement colonial et d'un approvisionnement colonial va revenir après 14, mais ne revient qu'après 1914. On a presque un siècle, en fait, pendant lequel la question, l'idée d'une autosuffisance coloniale, d'un approvisionnement colonial, disparaît au profit d'idées qui étaient beaucoup plus en vogue à l'époque et puis qui sont revenues plus récemment, de libre-échange, de commerce ouvert, etc., etc. Alors vous voyez donc sur ce tableau que, effectivement, en 1929, donc 4% du café seulement provient des colonies pour la France, mais que très vite, on retrouve des niveaux d'approvisionnement extrêmement importants jusqu'à ce que, et là c'est le pic, hein, en 1958, 76% du café importé en France viennent des colonies, de l'espace colonial. Alors on a bien eu effectivement, à partir de la guerre de 14-18, mais encore plus à partir de 29, la mise en place d'une stratégie d'autarcie impériale, donc la recherche d'une autarcie impériale, d'un approvisionnement exclusif en provenance de l'Empire, en particulier pour pouvoir épargner les devises. C'était ça le principal souci de l'époque, en dehors des questions de sécurité, pouvoir épargner les devises, et qui va donc donner naissance à une nouvelle vague, à la création d'une nouvelle vague, une série de nouveaux terroirs caféiers, mais aussi cacaoyers, mais aussi sucriers, etc., etc., dans un certain nombre de territoires, et en particulier en Afrique. Et ce n'est effectivement qu'après 1913, et surtout après 1929, que l'Afrique commence à occuper une place importante, sérieuse, dans l'approvisionnement français. Jusque-là, l'Afrique, en dehors des oléagineux et de l'arachide, je crois qu'il y a eu un exposé sur l'arachide ici aussi, en dehors de l'arachide, l'Afrique vraiment avait un rôle marginal, voire négligeable, dans le commerce international, jusqu'en 1918, voire 1929. Ce n'est qu'après 1929 que vraiment l'Afrique va trouver une place importante en termes d'approvisionnement de matières premières, et là, le café en est une très bonne illustration, jusqu'à constituer 76%. 76%, c'est essentiellement donc effectivement l'Afrique, essentiellement la Côte d'Ivoire, sur laquelle je vais insister plus, et aussi le Cameroun, Madagascar, pour l'essentiel, un peu de RCA, mais plus marginalement. Alors, l'histoire du café dans les colonies africaines françaises, ou françaises en Afrique, commence comme on aurait pu s'y attendre, c'est-à-dire avec des plantations européennes, et bon, je vais passer vite là-dessus, mais on a effectivement un certain nombre de planteurs français qui cherchent à développer une production de café, qui au Gabon, qui au Congo, qui en Côte d'Ivoire. Donc j'en ai des petites séries comme ça de planteurs français hein, qui campent au milieu de leurs champs. Ça, c'est une tout jeune caféière, hein, je crois que c'est au Bénin, ça en l'occurrence. Vous voyez, bon là c'est pas un français, mais on voit toujours la question de l'enjeu de la surveillance. Donc l'histoire commence toujours de la même façon, avec généralement, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, des gens qui étaient initialement forestiers, qui vont se tourner ensuite, à partir des années 20, des années 30, dans la production de café. Production de café qui, donc, en Côte d'Ivoire, avec ses plantations européennes, se développe principalement dans la zone où vous voyez où il y a un gros point noir, qui est bienvenu, c'est pas moi qui l'ai mis, mais il est arrivé tout seul là, qui est la région de Mans, où s'installent les premières plantations, les principales, et sur la région côtière aussi, où s'installent les premières plantations de café européennes. Mais l'histoire change d'un coup. Et là, on a une rupture vraiment essentielle dans l'histoire coloniale et dans le lien entre histoire coloniale et café. C'est que vous voyez ici, j'ai repris des graphiques d'un document de 58, de 53 plutôt, d'un certain Fréchoux. Vous voyez ici que, en fait, très vite, la production indigène, ce qu'on appelle alors la production indigène, dépasse et marginalise la production des plantations européennes, des plantations de blancs. Vous avez donc la répartition entre la production des Français ou des Européens, disons, et la production indigène sur trois dates, 42, 47 et 52. Et voyez que dès 42, en fait, tant en café en haut qu'en cacao, je ne développerai pas sur le cacao, la production africaine a dépassé la production européenne. Elle est déjà le double, et dans les années qui suivent, la production européenne tend à disparaître complètement. Donc là, on a vraiment un changement radical dans l'histoire coloniale, avec une production coloniale qui n'est plus le fait de plantations européennes, mais qui est le fait de planteurs, on les appelle planteurs aussi, de planteurs africains. Et effectivement, ce qui s'impose à ce moment-là dans les colonies françaises, en Côte d'Ivoire, mais aussi en bonne partie au Cameroun, même si en Cameroun on a quelques grandes plantations, c'est des exploitations pour la plupart familiales qui font 5 à 6 hectares et sur lesquelles l'essentiel de la main-d'œuvre est fournie par la famille, les femmes, les enfants, avec un complément non négligeable malgré tout de travail salarié, embauché ou à la journée ou au mois ou à l'année suivant les endroits. Je ne voudrais pas oublier des choses. Alors, dans cette affaire-là, mais finalement d'une manière spatialement différente de la grande plantation, mais pas différente dans le principe, le café est associé étroitement à des cultures vivrières et on a souvent eu dans l'histoire et dans les débats l'opposition vivrier, café, etc., ou culture d'exportation, culture vivrière. Dans le cas du café, pour ce que j'en connais et pour ce qui concerne l'Afrique francophone, l'association culture vivrière café est systématique. Elle est systématique quand les caféiers sont jeunes, évidemment. Vous voyez ici, on a des tarots, on a du maïs, on a des ignames, on a du manioc. Elle est systématique, mais elle perdure au-delà des jeunes plantations. et une production, une plantation, une exploitation caféière africaine n'abandonne jamais la production vivrière. Elle continue de produire du vivrier, et on a souvent d'ailleurs même croissance de la production vivrière conjointement à la production de café. On a, au regard, je voulais mettre cette photo, d'abord parce que c'est des petits-enfants, c'est joli à voir, mais surtout parce que, pour souligner le contraste et avec ce que vous avez vu précédemment comme photo des grandes plantations. Vous voyez derrière, le café est en train de sécher. On voit le café en train de sécher, donc il est mis directement sur le sol, quelqu'un marche dessus d'ailleurs même. Et vous voyez à quel point le radical contraste avec ces images de plantations, avec ces bâtiments énormes, avec ces installations énormes, c'est vraiment une des caractéristiques majeures de cette affaire, c'est que le café colonial, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres colonies françaises africaines, en fait, est extrêmement décapitalisé par rapport à la production historique coloniale. On a vraiment une production que tout le monde peut faire pratiquement. Il suffit d'avoir de la terre et une machette, et on peut faire du café. Et on a vraiment un contraste radical, et il est évident que cette production, avec très peu de capital, va très fortement concurrencer la production des grandes plantations, et va signer la mort des grandes plantations. En fait, elle a été signée bien plus tôt par le développement d'une production paysanne de ce type-là en Amérique latine, qui a démarré dès le début du XXe, même la fin du XIXe en Colombie et au Costa Rica. Mais cette production donc paysanne est avant tout une production sans capital. Le principal capital de cette production paysanne est l'arbre, et le caféier, ou le cacaoyer dans le cas du cacaoyer, mais c'est l'arbre, et puis, je vous dis, une machette. C'est à peu près tout. Je voulais vous montrer juste une autre... Ça, c'est beaucoup plus récent, hein. C'est les années 70, c'est une autre photo de café en train de sécher, mais pour vous montrer à nouveau hein, le peu de capital qui est impliqué dans cette activité de séchage de café. Et en fait, le capital, on pourrait dire, se déplace dans cette affaire-là, et là où va rester une activité relativement intensive en capital, et qui va être une activité des Français, qui va rester une activité des Français même jusqu'à au-delà des indépendances, c'est dans le négoce et la transformation du café. Là, vous avez le bâtiment, c'est un bâtiment, c'est tout bête, mais c'est un bâtiment à Abidjan, d'une société d'exportation de café, dans lequel était décortiqué le café, trié, mis en sac, etc. Et c'est là que va se déplacer à la fois le capital et les activités des entrepreneurs français ou européens. C'est dans l'exportation de café et sa transformation. C'est bon, je suis dans les temps. Dernière image que je voulais vous montrer sur la Côte d'Ivoire, c'est celle-là, qui est pour souligner aussi le rôle qu'a joué le café et la caféculture dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire coloniale. Donc sur cette photo, vous avez Monsieur Yao Apela, qui est un planteur de café, qui est décoré, qui devient officier du mérite agricole, et qui est décoré par Monsieur Mesmer lui-même, hein, donc Pierre Mesmer, gouverneur de la Côte d'Ivoire à l'époque, futur Premier ministre français, qui donc décore Monsieur Yao Apela de la médaille du mérite agricole. Ce qui m'intéressait de montrer avec cette photo, c'était l'existence d'une couche de planteurs beaucoup plus gros que ceux dont j'ai parlé, des planteurs qui ont jusqu'à 100 hectares, 130 hectares, c'est le cas de Monsieur Apela, qui a 130 hectares de café, de cacao, d'ananas, qui est un planteur qui est, comme beaucoup de planteurs, qui est originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Il est originaire de la région de Bouaké, c'est un baoulé. Il a travaillé au départ dans une société, dans une maison de traite, dans une maison de commerce française, qui lui a permis d'accumuler de l'argent, d'obtenir des camions. Et il s'est installé dans le sud de la Côte d'Ivoire, sur la côte à Sassandra, où il a pu constituer ses plantations, tout en continuant sur l'activité de transport et de commerce. Une de ses ressources particulières à ce monsieur, c'est qu'il a, grâce à ses camions, à ses relations, au circuit qui s'était constitué en travaillant pour cette maison de commerce, il a pu, en particulier, aller chercher de la main-d'œuvre pour travailler dans ses plantations, aller chercher de la main-d'œuvre au nord, jusqu'au Burkina, hein, en pays Mossi, pour travailler dans ses plantations. Cette catégorie de planteurs de taille importante a joué un rôle essentiel dans l'histoire ivoirienne. A joué un rôle essentiel et elle l'a joué en bonne partie politiquement, Oufouette Boigny vient de cet univers-là. Oufouette Boigny, qui est le futur président de la Côte d'Ivoire, est un, on pourrait dire, un équivalent de M. Apella. Et elle s'est constituée politiquement comme l'élite principale du pays, en particulier autour de la bagarre contre les planteurs français à propos de la main-d'œuvre, en fait. L'essentiel de la bagarre que vont mener ces planteurs africains va se faire sur la question de l'accès à la main-d'œuvre. Compte tenu des problèmes récurrents de main-d'œuvre qui existaient en Côte d'Ivoire durant la Deuxième Guerre mondiale et même jusqu'aux années 50, une bonne partie de l'approvisionnement en main-d'œuvre reposait sur le recrutement forcé. L'administration française imposait, d'une façon ou d'une autre, aux populations de travailler, normalement uniquement pour les ouvrages publics, mais aussi pour une bonne partie pour les chantiers forestiers et aussi une autre partie pour les plantations. Plantations principalement européennes, mais plantations africaines aussi. C'est important, c'est intéressant de le savoir, que les Africains n'étaient pas forcément exclus de cet accès à la main-d'œuvre qui était une main-d'œuvre de travail forcé. Or, cet accès à la main-d'œuvre forcée va leur être interdit au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et les planteurs français, qui constituent un groupe assez important, en fait, en Côte d'Ivoire, bien plus important qu'au Sénégal, bien plus important que dans les pays sahéliens, vont réussir, dans une situation de pénurie forte de main-d'œuvre, à se réserver l'accès à la main-d'œuvre du travail forcé. Et la réaction des planteurs africains va être de se constituer en syndicat autonome, le syndicat des agriculteurs africains, le syndicat agricole africain, pardon, qu'ils constituent en 1944, pour réclamer cet accès à la main-d'œuvre, pour s'organiser aussi pour organiser des approvisionnements de main-d'œuvre au nord du pays, hein, puisque la main-d'œuvre est au nord. Et c'est à partir du syndicat agricole africain et de la lutte du syndicat agricole que, d'une part, le travail forcé va être aboli en 1946. C'est le résultat de l'action du syndicat agricole africain, dont le président est Oufouette Boigny lui-même. Oufouette Boigny vient directement de là. Mais c'est aussi autour du syndicat agricole africain que va se constituer ensuite le Rassemblement démocratique africain, puis plus tard le PDCI, c'est-à-dire le parti d'Oufouette Boigny. Donc c'est autour de cette bagarre sur l'accès à la main-d'œuvre que s'est constitué politiquement les élites de l'indépendance africaine. Et cette classe de grands planteurs africains va faire l'indépendance en bonne partie et va survivre à l'indépendance. Et c'est ce qui explique en bonne partie la très grande continuité, je reviendrai peut-être là-dessus en conclusion, mais la grande continuité qu'on a dans le cas de la Côte d'Ivoire en particulier, jusqu'aux années 80, début 90, entre la période coloniale et la période postcoloniale dans un pays comme la Côte d'Ivoire. S'agissant en particulier du café et du cacao, mais pas seulement du café et du cacao. Alors, je conclue, puisque j'en suis à la fin de mon temps. J'ai essayé de conclure, ce qui n'est pas facile sur cette histoire de café colonial, en insistant sur les continuités, les spécificités, les ruptures dans cette histoire. Premier point, qui est une continuité, mais qui n'est pas une spécificité de l'affaire coloniale, c'est qu'effectivement, je vous l'ai dit déjà, le café est une culture de front pionnier. C'est une culture qui se constitue par la défriche de forêts vierges. Trois implications qu'on retrouve dans toute l'histoire du café. C'est expropriation, plus ou moins violente, plus ou moins négociée. Alors, expropriation violente, évidemment, dans le cas de Saint-Domingue, dans beaucoup d'endroits, expropriation a voulu dire extermination aussi, tout simplement. C'est-à-dire que les populations caraïbes se sont fait tuer, hein, dans les îles, dans les Antilles. Dans un certain nombre d'autres endroits, elles se sont fait tuer aussi. La Côte d'Ivoire, de ce point de vue-là, est un cas particulier, puisque les populations qui avaient l'usage, on pourrait dire, des terres qui vont devenir des terres caféières ou cacaoyères, ont réussi à conserver un contrôle assez important, malgré tout, de leurs terres et à négocier à la fois avec les autorités coloniales, mais aussi avec les migrants qui sont venus en masse du nord du pays, un contrôle qui est resté fort sur bien des terroirs caféiers. Deuxième caractéristique, c'est la déforestation. La déforestation, donc, je vous en ai montré une image tout à l'heure, hein, la déforestation et la culture du café est systématiquement associée à la déforestation. Il n'y a que très récemment, on pourrait dire au cours des 30 dernières années et à peine, que la production de café a pu s'accroître par une certaine intensification, mais jusque-là, elle s'est toujours accrue par une extension des surfaces sur la forêt vierge. Et enfin, et dernier point est très important, migration. Un front pionnier, c'est toujours des migrations importantes.
Saint-Domingue, ben, c'était l'émigration des Français, mais surtout des esclaves. Hein. Il y a 800 000 esclaves en tout qui ont été amenés d'Afrique sur Saint-Domingue entre le 17e, entre le 16e plutôt, et le 18e, début 19e. 800 000. Migration en Indochine, je vous en ai parlé tout à l'heure. Migration en Côte d'Ivoire aussi, très importante. De populations qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé des Baoulés, mais aussi qui viennent du Burkina et qui descendent massivement sur la zone forestière. Et qui est un des ressorts des conflits que connaît la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Deuxième point de discussion, grande plantation esclavagiste versus exploitation familiale. Donc j'ai insisté là-dessus, je le réinsiste, c'est-à-dire qu'on a vraiment une discontinuité de ce point de vue-là entre les deux temps coloniaux français. Un premier temps colonial qui est un temps de la grande plantation esclavagiste, un deuxième temps colonial qui est avant tout un temps de l'exploitation familiale indigène, on peut dire, de manière générique. Et qui est une inflexion qui se fait en fait dès la Première Guerre mondiale, qui ne concerne pas que le café, qu'on retrouve sur le coton par exemple, qu'on retrouve sur beaucoup de cultures, qui est une inflexion sur laquelle je pourrais revenir peut-être dans la discussion, qui va progressivement amener les élites coloniales à considérer que finalement, plutôt que d'essayer de constituer des grandes plantations européennes, pour N raisons, qu'on pourra discuter, il vaut mieux essayer de faire travailler, de faire produire ces indigènes et de faire produire aux indigènes ces produits tropicaux qu'on cherche à exporter. Mais là encore, l'affaire n'est pas spécifiquement coloniale, d'une certaine façon. Et bon, ça aussi, on pourra en discuter, mais ce basculement de la grande unité agricole à l'exploitation familiale, on le retrouve bien au-delà du cadre colonial. On le retrouve pratiquement pour tous les produits agricoles du commerce à longue distance. Vous prenez les céréales, et c'est sans doute la catégorie produits agricoles de commerce à longue distance, c'est sans doute la catégorie la plus pertinente de ce point de vue-là. Donc, pour tous ces produits-là, le mode normal de production, le mode principal d'organisation de la production, jusqu'au milieu du 19e siècle, et la grande unité agricole. C'est ce que vous retrouvez en Europe centrale, c'est ce que vous retrouvez en Amérique latine, c'est ce que vous retrouvez en Angleterre. À partir du milieu du 19e siècle, et encore plus du 20e siècle, l'exploitation familiale, comme on connaît en France, va devenir progressivement et va s'imposer comme la norme, y compris pour le commerce à longue distance. Bon, et dernier point sur lequel je voulais conclure, c'est le rôle de ce café, cet héritage que laisse le café hein, dans la production des élites. Alors, Saint-Domingue est un contre-exemple, puisqu'il y a eu cette révolution, il y a eu cette insurrection des esclaves qui a expulsé les élites de planteurs qui existaient à Saint-Domingue. Mais dans toute l'Amérique latine, post-indépendance, c'est-à-dire post-1815, les producteurs de café occupent une place de choix dans les élites des pays, et dans le contrôle et le gouvernement de ces pays-là. Et on retrouve ce scénario-là, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec cette très grande continuité, cette formation des élites autour de la culture du café et du cacao, qui est très proche, qui se fait autour de la Deuxième Guerre mondiale, et qui va organiser les indépendances et survivre aux indépendances, et survivre pratiquement en l'état, on pourrait dire, jusqu'aux années 80. Voilà, merci.
J'ai une question de compréhension. Vous avez parlé du remplacement des esclaves par des travailleurs d'origine indienne, avec des mots anglais que je n'ai pas tout compris. Il y avait Indian, il y avait labor, mais il me manquait un mot.
D'accord.
Vous pourriez
nous le... D'accord. Donc, c'est un problème, c'est peut-être à cause de mon accent. C'est indenture. Indenture. I-N-D-E-N-T-U-R-E. T-U-R-E. Indenture labor.
Et ça consiste en quoi ?
C'est l'équivalent des engagés. C'est l'équivalent des engagés, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont recrutés en Inde, et principalement en Inde et en bonne partie en Chine aussi, qui sont recrutés et à qui on paye le voyage en échange d'une obligation de travail pour une durée donnée. Et donc, qu'on va retrouver dans les Antilles, en Guyane, à Suriname, au Pérou, à Cuba, enfin, hein, donc on va retrouver dans tous les endroits où, après l'abolition de l'esclavage. Et c'est massif, hein, c'est des millions de gens qui ont été déplacés à ce moment-là.
Bonsoir, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Sur une de vos photos, vous montrez des enfants. Ils sont un peu en randonnion, là, la photo où il y avait le chien.
Ouais.
Vous ne nous avez rien dit sur le travail des enfants.
Alors, oui, c'est une photo, je ne vais pas essayer de la remettre, ça serait plus compliqué. C'est une photo donc sur l'Indochine, hein, qui porte sur l'Indochine, effectivement. Dans le cadre, je ne connais pas bien dans le contexte indochinois, mais dans le contexte de Saint-Domingue, esclavagiste historique, disons, les enfants travaillent, évidemment. Les enfants travaillent, ils travaillent à partir de 10 ans environ, un peu avant même, 8 ans. Ils travaillent souvent. Bon, une de leurs activités, c'est le gardiennage du troupeau, du bétail, hein, des bœufs en particulier, mais ils travaillent dans les plantations. En fait, il y a un système. Alors, j'en ai pas trouvé la trace sur le café, mais qui existe sur le sucre et qui organisait clairement le travail au champ dans le cadre du sucre, qui était un système de double équipe, ce qu'on appelait le grand atelier et le petit atelier. Le grand atelier étant constitué des hommes adultes, et des femmes et hommes adultes en bonne santé, le petit atelier des enfants et des gens plus âgés qui avaient plus de mal à travailler, avec une division du travail entre ce groupe du petit atelier, constitué d'enfants et de personnes âgées, et le grand atelier. Mais évidemment, les enfants en travaillent.
Bonsoir. J'aurais voulu savoir la différence qu'il y a entre Arabica et Robusta.
Alors, c'est une différence de variété, et même, si je ne me trompe pas, d'espèce, pour ne pas dire de bêtises. C'est donc deux. La différence, elle est génétique. Elle est génétique. L'Arabica, comme dit son nom, vient d'Éthiopie. Vient des monts d'Éthiopie historiquement et a ensuite été donc développé initialement au Yémen. Le Robusta, lui, vient plutôt d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Alors, une différence importante, c'est leurs conditions de culture. Le Robusta supporte beaucoup mieux d'être cultivé en basse altitude, dans des endroits où il fait chaud, voire un peu. Il peut accepter un peu de sécheresse, alors que l'Arabica a vraiment besoin d'humidité et d'altitude. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour l'Arabica. Et puis, la différence, elle est aromatique. Principalement, après pour le consommateur, le Robusta a un goût beaucoup plus forcé, on appelle ça un goût corsé, et a une teneur en caféine beaucoup plus importante que l'Arabica. En fait, une des choses qui ont... Les Français sont mis à boire du Robusta quand s'est redéveloppée la production de caféière dans les colonies françaises, donc après 1929, à l'abri de la protection vis-à-vis des cafés étrangers. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais un des facteurs du développement de la production en zone caféière, dans les colonies françaises après 1929, ça a été la mise en place de droits de douane sur les cafés étrangers pour favoriser les cafés coloniaux, plus des subventions à la production. Et à ce moment-là, les Français se sont mis à boire du Robusta et à aimer le Robusta alors qu'ils buvaient comme tout le monde avant du café brésilien ou du café latino-américain, du café arabique. Par ailleurs, le Robusta a profité du développement du café soluble. C'est un café qui se solubilise plus facilement et donc ça a été aussi un créneau important pour la consommation de Robusta.
Combien de temps faut-il pour que les caféiers produisent après la déforestation et pendant combien de temps produisent-ils ?
Alors, historiquement, traditionnellement, sur des variétés traditionnelles, il faut 5 à 6 ans pour qu'un caféier produise. C'est une des choses que les sélectionneurs ont cherché à réduire et on arrive à avoir des caféiers qui produisent au bout de 3 ans maintenant à peu près. C'est vraiment un enjeu et en fait ce délai d'entrée en production du caféier explique une bonne partie alors, d'une autre histoire dont je n'ai pas parlé du tout ici, mais qui est l'histoire des prix du café en longue période. Le prix du café manifeste un cycle très caractéristique. On a des cycles de haut prix et des cycles de bas prix qu'on peut expliquer très bien, et ça fonctionne bien d'un point de vue mathématique. En lien avec ce délai d'entrée en production, en fait. En période de haut prix, les gens plantent et plantent pendant longtemps parce que la production tarde à apparaître sur le marché. Et donc la hausse dure pendant 4-5 ans. Et puis d'un seul coup, toute la production arrive sur le marché. Et donc là, les cours s'effondrent et s'effondrent durablement. Un caféier traditionnel peut rester en production pendant 50 ans. Un caféier plus récent, cultivé de manière intensive, beaucoup moins, mais quand même 20 ans, quelque chose comme ça. Donc. Une fois qu'on a une caféière, en fait, elle produit, et le coût d'arrachage est quand même très important. On a très peu d'exemples historiques, en dehors du Brésil dans les années 60, très peu d'exemples historiques d'arrachage de caféiers, en fait, même en bas prix.
Combien de personnes faut-il pour cultiver le café, un hectare de café, et quel est la production, le rendement ?
C'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire. J'aurais envie de vous dire à la louche comme ça, une personne à l'hectare, en gros à peu près. Une personne à l'hectare en système traditionnel, non mécanisé, etc. En sachant qu'il y a quand même une pointe de travail au moment de la récolte, qui peut nécessiter un peu plus de travail. Après, pour ce qui est de la production à l'hectare, vous voulez dire, enfin, la production moyenne, c'est ça ? C'est très variable. C'est très variable et c'est une des choses intéressantes, je trouve, dans l'histoire caféière, c'est que on peut penser qu'on a au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, une très grande homogénéité des conditions techniques de production. C'est-à-dire qu'on a la grande plantation, c'est vraiment le modèle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a la plantation de Saint-Domingue a servi de référence en bonne partie au reste du monde. Et donc on a des conditions de production qui sont sans doute très homogènes à l'échelle du monde, avec une circulation de l'information, avec le type de manuel dont je vous parlais, les écrits de monsieur là-bas. À partir du XXe siècle, avec le développement de l'agriculture familiale ou de l'agriculture paysanne, on a une hétérogénéité beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée des conditions de production. Et on a des rendements qui s'étalent entre... Aujourd'hui, on a des rendements qui doivent s'étaler entre... qu'est-ce que je peux vous dire ? Aujourd'hui, sans doute, entre 300 kilos et au moins 2 tonnes, quelque chose comme ça. 300 kilos en système vraiment paysan, sous ombrage, avec culture associée. 2 tonnes, j'aurais tendance à penser au moins 2 tonnes dans les régions les plus productrices du Brésil, c'est-à-dire les Cerrades aujourd'hui ou en Australie, où on a maintenant une production qui est fortement mécanisée, y compris la récolte, et irriguée, etc. Enfin bon, très technifiée, comme on peut produire du blé ailleurs ou du...
Je voudrais savoir si les caféiers sont traités, s'il y a des maladies.
Oui, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies, il y a à la fois des maladies fongiques, comment il faut dire, des maladies, excusez-moi, des champignons quoi, des moisissures, des champignons. La rouille en étant une des principales qui attaque particulièrement, il y a une maladie qui s'appelle la rouille, qui chemine, qui voyage dans le monde depuis le 19e, qui a détruit complètement la production de Sri Lanka dans la deuxième moitié du 19e, de Ceylan, à l'époque, et qui est arrivée en Amérique latine beaucoup plus tard. Il y a beaucoup d'insectes aussi. Il y a en particulier un insecte qu'on appelle la broca du café, là, qui sévit en Colombie en particulier, qui fait des trous dans le grain de café, ce qui est quand même embêtant. Donc il y a beaucoup de maladies, et on traite le café là où les gens ont assez d'argent pour traiter le café, pour acheter des intrants, des produits de traitement pour le café. Oui, on le traite, clairement. Donc en Amérique latine, on le traite. En Afrique, on le traite beaucoup moins. Voilà, ça dépend. C'est pas tant les conditions sanitaires que les revenus et l'accès aux intrants qui déterminent le fait qu'on traite ou pas son café. C'est une chose qu'on dit souvent, mais en fait, une bonne partie de la production de café dans les régions les plus pauvres pourrait être facilement classée comme production biologique, organique, on dit en anglais, parce que simplement les gens ne traitent pas, parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens de traiter, c'est tout. Mais en Costa Rica ou en Colombie, on traite de manière importante.
Est-ce que vous pouvez revenir d'un point de vue plutôt historique sur la révolte des esclaves de Saint-Domingue, et en particulier, je voudrais savoir si on peut considérer que l'une des explications vient de ce que vous nous avez indiqué sur... en quelque sorte, le taux de surveillance. Vous avez parlé de pratiquement 20 esclaves pour un blanc. Il se trouve que récemment, à Rochefort, ou plutôt à La Rochelle, j'ai vu des chiffres un peu différents, pratiquement une proportion diminuée de moitié, c'est-à-dire 10 esclaves pour un blanc. Et est-ce que là, il y a une... peu importe le chiffre... Est-ce que là, vous considérez qu'il y a vraiment une relation entre la capacité des Blancs à encadrer les esclaves et puis la survenance d'une révolte ?
C'est vraiment une très bonne question. Non, d'autant que les effectifs d'esclaves ont beaucoup augmenté juste avant 89, et en 90, il y a 50 000 esclaves de plus qui sont arrivés à Saint-Domingue, juste avant les événements à Saint-Domingue. Donc... Mais en même temps, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de Saint-Domingue et de ses événements, qui sont compliqués. Hein. Ça dure pendant 3-4 ans avant que les choses se clarifient un petit peu, si on peut considérer qu'elles se soient clarifiées à ce moment-là. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que il y a eu une perte, il y a eu surtout division finalement au sein de la société blanche et entre les blancs et les ce qu'on appelle les libres de couleur, c'est-à-dire les gens qui étaient noirs mais libres, qui avaient été affranchis précédemment, et qu'il y a eu énormément de conflits et c'est un jeu très compliqué qui se met en place. Avec des lignes de fracture multiples entre, vous avez au moins quatre catégories de population. Vous avez les nobles de Saint-Domingue, vous avez les petits blancs de Saint-Domingue qui ne sont pas nobles mais qui vont devenir éventuellement républicains contre les nobles. Vous avez les libres de couleur qui voudraient accéder au statut de citoyen de plein droit à ce moment-là, éventuellement sans contester l'esclavage, mais qui veulent y accéder. Et vous avez les esclaves. Et vous avez un jeu d'alliances et de mésalliances et de retournements d'alliances extrêmement compliqué entre ces quatre catégories de population qui va décimer l'île pendant plusieurs années. Quoi. Donc, et c'est d'abord ces fractures, je pense, mais c'est souvent comme ça, hein, je crois, dans l'histoire de l'humanité. Ces fractures au sein de la catégorie dominante qui va faire craquer la situation à Saint-Domingue.
Est-ce que l'indigénisation de la production que vous avez montrée correspond à une indigénisation de la consommation? C'est-à-dire, est-ce que les gens consomment du café là où ils le fabriquent ou est-ce que c'est seulement un luxe pour les Européens?
Historiquement, non. C'est-à-dire que le café restait une affaire d'Européens et du monde arabe, quand même, jusqu'à une date très récente. Et la plupart des pays producteurs africains, en tout cas, ne consomment pratiquement pas de café. L'Amérique latine est différente. Il y a une consommation de café, mais bon, là, on sort de la question de l'indigénéisation de la culture. Hein. À côté de l'Amérique latine, le pays producteur de café où il y a une consommation assez importante, c'est l'Indonésie, du fait aussi de des héritages arabes hein, qu'on retrouve en Indonésie, j'imagine. Mais sinon, non, en Afrique subsaharienne, on ne boit très peu de café. On ne boit pas de café, pratiquement pas. Non, non.
Bonsoir et merci. Vous avez dit tout à l'heure que la France préférait importer du café d'Amérique latine plutôt que de ses colonies, avant 29 en tout cas. J'imagine que ce n'est pas une question de prix, mais peut-être une question de production. Ou quelle est la raison?
La principale raison, c'est que la production des colonies s'est effondrée en bonne partie aussi. Elle s'est effondrée d'abord à Saint-Domingue, puisque Saint-Domingue a disparu, en tout cas de l'Empire français, et c'était son principale source d'approvisionnement. Et la production de café qui pouvait exister dans les autres colonies françaises avant 14, c'était avant tout une production dans les îles, donc c'était La Réunion, c'était la Guadeloupe, Martinique, etc. Ou dans le contexte post-abolition de l'esclavage, donc après 48, hein, la vraie abolition de l'esclavage après 48, le sucre s'est imposé comme la culture qui finalement a éliminé toutes les autres cultures, qui était la culture qui a survécu, on pourrait dire, à la disparition de l'esclavage. Et donc, dans les autres colonies françaises, je crois que c'est d'abord ça le facteur. Le café a quasiment disparu. Alors, il a aussi disparu parce que la production de café s'est principalement développée au XIXe siècle en Amérique latine, et en particulier au Brésil, et que la production dans les colonies françaises n'ont pas résisté à la concurrence de l'Amérique latine. Vous avez vu cette plantation de café là que je vous ai montré au début, brésilienne, ces grandes lignes de café comme ça là. Le Brésil va représenter au tournant du XXe siècle 75% de la production mondiale de café. En fait, le Brésil j'ai dit en début d'exposé qu'il y avait eu très peu d'innovation dans le domaine du café. Il y a quand même eu un certain nombre de changements techniques qu'ont mené les Brésiliens en particulier qui leur ont permis de développer formidablement cette culture en cultivant sans ombrage, en décortiquant, en séchant directement les cerises, en les récoltant, sur un café, de certaine façon, qui était un café de moins bonne qualité que le café historique des Antilles ou le café des îles, mais qui va éliminer, de certaine façon, pratiquement toutes les autres zones de production caféière historiques du XVIIIe, quoi, en tout cas.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler des revenus des planteurs de café et oui. peut-être du café équitable? Je ne sais pas si ça existe réellement.
Alors.
Merci.
Si, bien sûr. Le café est le produit phare du commerce équitable, en tout cas en France. Hein. Il y a d'autres pays où la banane occupe une place très importante dans le commerce équitable, en particulier en Suisse. Mais en France, c'est quand même le café qui est avant tout le produit du commerce équitable. Comment vous parlez du revenu des producteurs de café? En fait, le point de départ du commerce équitable sur lequel j'ai travaillé, c'est d'abord la répartition du prix entre le consommateur et le producteur. Et peut-être plus encore entre l'exportateur, le prix d'exportation, le prix international et le producteur. Et ce qu'a cherché avant tout le commerce équitable, c'était à garantir un prix au producteur qui soit juste, qui soit juste et qui soit une part juste du prix que paye le consommateur. Et effectivement, ce que permet le commerce équitable, c'est ça. C'est-à-dire que les producteurs qui vendent une partie de leur production certifiée équitable aient un prix garanti sur une partie de leur production, rarement sur la totalité de leur production, mais sur une partie de leur production, un prix garanti qui doit être actuellement minimum autour d'1,20 $ ou quelque chose comme ça par livre. Après, sur les revenus, c'est difficile d'en tirer des conclusions parce que les revenus dépendent beaucoup de la productivité, de la production des producteurs. Il faut savoir que, en gros, en moyenne, le prix à la production représente, dans bien des cas, la moitié du prix international. Et que l'essentiel des marges sur un paquet de café acheté par un consommateur, j'essaie de me rappeler en même temps que je vous parle de ces chiffres, l'essentiel de la marge s'est fait de plus en plus dans les pays consommateurs. Le mouvement est vraiment très manifeste sur les 15 dernières années. C'est-à-dire que l'écart entre le prix international et le prix au consommateur s'est fortement accru au cours des 15-20 dernières années. Il s'est accru d'une part parce que le prix international a été divisé pratiquement par deux dans les années, à la fin des années 80, début 90, parce qu'un accord international sur le café qui existait depuis 40 ans a disparu en 89 et a provoqué une baisse du prix international du café qui a été quand même importante. Et puis parce que les torréfacteurs ont réussi à incorporer de plus en plus de valeur dans le café qu'ils vendent aux consommateurs, pas tellement en transformant de manière différente le café, même si ces toutes dernières années, on a vu la nouvelle étape dans cette affaire-là, qui est tout le développement des machines à expresso, qui est quelque chose de très récent, hein, mais qui est effectivement là qui, pour le coup, génère encore plus de valeur ajoutée et du côté de la torréfaction et de la distribution, c'est-à-dire dans les pays consommateurs. Mais aussi, en vendant de plus en plus aux consommateurs, pas seulement du café, mais des images, des symboles, des attributs symboliques, on pourrait dire, hein, du rêve. Le carte noire, c'est du rêve, une dame qui danse, des arbres, des paysages tropicaux, etc. Et il y a eu effectivement de ce fait-là un écart croissant donc, entre le prix international et le prix au consommateur. C'est donc finalement l'écart entre le prix au producteur et le prix international s'est plutôt réduit au cours des 20 dernières années. Il s'est réduit en bonne partie parce que une bonne partie des taxes qu'apposaient autrefois les États dans les pays producteurs ont été éliminées, ont été supprimées. Mais il s'est fortement accru entre le prix international et le prix au consommateur. Et donc, effectivement, le producteur touche une part de plus en plus faible du prix à la consommation. Et le point de départ du commerce équitable, c'est ça. C'est ça. C'est d'accroître ça. Alors, je suis un peu embêté sur le commerce équitable parce que, c'est mon boulot, j'ai une vision un peu critique du commerce équitable dans le sens où le commerce équitable ne tient pas tout à fait ses promesses dans le sens où le prix qui est payé au producteur, qui est effectivement meilleur, est meilleur d'abord parce que le consommateur paye plus cher. Et effectivement, le consommateur paye plus cher son café équitable et ce surprix que paye le consommateur est reversé en partie au producteur, en partie. Mais la part du prix au producteur sur un paquet de café équitable n'est pas forcément bien beaucoup supérieure à la part du producteur sur un paquet de café non équitable. Mais il est quand même mieux payé parce que le consommateur paye plus cher.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un bon café? Vous avez parlé de café de qualité, ce qui n'est pas forcément veut dire bon café, j'imagine. On parle beaucoup du Blue Mountains, Mountain plutôt. Et est-ce que ça, c'est un gage de qualité?
Alors, je vais vous donner deux réponses là-dessus. La première réponse, c'est que, et c'est, ça vaut pour tous les produits tropicaux, un bon café, comme un bon cacao, est un cacao ou un café originaire d'un territoire qui était autrefois de plantation esclavagiste. C'est-à-dire un produit de luxe, une épice de luxe. Le meilleur café du monde, c'est le Blue Mountain de Jamaïque. Et la Jamaïque fait partie des premiers terroirs historiques caféiers. Et donc, la qualité du café comme celle du cacao, elle est d'abord historique. Et elle est liée au fait que c'était autrefois des produits de luxe au XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, qui se sont ensuite massifiés, mais que la référence pour un bon produit, pour une bonne épice, pour un bon café, pour un bon cacao, ben c'est la référence historique du produit de luxe. Après, un bon café, donc de ce point de vue-là, un bon café, c'est un café qui va venir d'un terroir historique de plantation esclavagiste. Mais il est clair que les torréfacteurs, y compris les torréfacteurs industriels, arrivent à faire des bons cafés, du point de vue aromatique aussi. Et la référence ne vient plus historique, elle est purement aromatique. Et un bon café, c'est d'abord un café dont le goût va rester stable dans le temps. C'est-à-dire que le paquet que vous achèterez la semaine prochaine aura le même goût que celui que vous avez acheté la semaine dernière. Ce qui n'est pas une mince affaire à obtenir, compte tenu du fait que l'arôme du café récolté varie, lui, dans le temps, comme l'arôme du vin. Et dans le domaine du café, on n'a pas l'habitude de penser que un café d'un terroir donné doit avoir son goût qui change. Et donc, j'ai un tout petit peu évoqué ce point-là tout à l'heure. La solution des torréfacteurs, c'est de mélanger les cafés. Et le cœur de métier d'un torréfacteur, c'est cette capacité à constituer des mélanges de cafés qui vont lui permettre d'avoir un arôme stable dans le temps et d'arriver à acheter des cafés, à goûter des cafés en ayant en tête ce qu'ils pourront donner dans le cadre d'un mélange qu'ils vont confectionner plus tard. C'est vraiment ça la difficulté du métier de torréfacteur. C'est cette capacité à faire des mélanges. Mais après, donc, on a des gens qui savent faire ça très bien. Hein. Il est clair que une partie des produits, je ne vais pas faire de publicité ici, mais ce que fait Nestlé avec les Nespresso, il y a des choses très très bonnes, excellentes, je crois. D'un point de vue, dernier point quand même, que j'aurais dû peut-être recommencer par ça, d'un point de vue un peu radical, on peut dire aussi qu'un bon café, c'est d'abord plutôt un Arabica qu'un Robusta. Ça, c'est à peu près clair.
Bonsoir. Je voulais savoir quels étaient les grands enjeux des accords internationaux ou des renégociations des accords internationaux. Vous avez dit que à fin des années 80, un accord avait atteint son terme. Et donc du coup, quels sont les grands enjeux, notamment pour les pays producteurs à l'heure actuelle? Et en quoi ça peut équilibrer ou rééquilibrer? On parlait du prix du café, donc la quote-part qui revient aux pays producteurs. Et notamment aussi en développement et en transfert éventuellement de, peut-être pas de technologie, mais en tout cas d'industrialisation.
Alors, oui. Donc, d'abord sur les accords. Donc, il y a eu effectivement un accord sur le café qui a existé en gros entre 1959 et 1989, donc pendant une trentaine d'années. C'est un des accords sur les matières premières qui a la plus grande longévité, avec un résultat tout à fait... Bon, c'est-à-dire qu'en gros, on peut penser, enfin, j'ai fait les calculs, que le prix du café grâce à l'existence de cet accord était le double de ce qu'il aurait été en l'absence d'accord. C'était un accord qui fonctionnait comme l'OPEP, c'est-à-dire sur un système de quotas. Chaque pays producteur avait un quota d'exportation et n'avait pas le droit d'exporter plus que son quota d'exportation. Quota d'exportation qui était recalculé chaque année en fonction des estimations de consommation qu'on pouvait faire. Cet accord a pu exister, et il aurait beaucoup de mal à exister aujourd'hui, pour deux raisons principales. Il a pu exister d'abord parce que il existait dans tous les pays producteurs jusqu'aux années 80 des offices du café, des instituts du café, des marketing boards du café, des appareils publics du café qui étaient en mesure de contrôler les exportations, de stocker le café excédentaire, donc de participer à un accord, de donner la capacité au pays de signer quelque chose, de signer un accord et de pouvoir le respecter. Si vous voulez pouvoir avoir une signature vous contraignant sur les volumes à exporter, il faut que vous ayez un dispositif qui va vous le permettre de le faire. Or, quand l'accord a été négocié en 59, enfin, quand un premier accord a été négocié en 59, tous les pays déjà avaient, pratiquement tous les pays avaient déjà des instituts du café, des offices du café qui ont permis de conclure l'accord, qui rendaient possible la négociation. Ces offices du café étaient le produit de différentes histoires, que je ne pourrais pas détailler maintenant, que je pourrais le faire dans d'autres circonstances, mais de l'histoire coloniale dans le cas français, puisque les caisses de stabilisation avaient été créées en 54 dans le cas de français, des marketing boards dans le cas anglais qui avaient été constitués au moment de la guerre pour approvisionner l'Angleterre, enfin bon, etc. Donc première chose, il fallait que, de toute façon, que pour que l'accord puisse exister comme un cartel, parce que c'était un cartel, de façon comme l'OPEP, il fallait que les pays existent comme unité sur le marché. Et ce qui leur permettait d'exister comme unité, c'était le fait qu'il y ait des offices de commercialisation publics dans les pays. Or, ces offices de commercialisation ont tous été démantelés après 89, en partie parce qu'ils ont fait faillite suite à la rupture de l'accord, en partie parce que les politiques de libéralisation, les politiques d'ajustement structurel qu'on a eues dans tous les pays en développement, ont activement cherché à démanteler tous ces offices de commercialisation publique. Pour une raison simple, et en partie justifié, c'est que ces offices étaient très souvent des systèmes de taxation des producteurs aussi. C'est-à-dire que ces offices, la caisse de stabilisation de la Côte d'Ivoire par exemple, n'avait de stabilisation que son nom. Enfin, si, elle a bien stabilisé, mais elle a toujours stabilisé le prix au producteur à la moitié ou au tiers du prix international. Et elle prenait la différence entre le prix international et le prix au producteur. Et effectivement, la plupart de ces offices ont joué le rôle un peu de ponction sur le prix au café, pour des raisons tout à fait... honorable, enfin on pourrait en discuter, mais en bonne partie parce que la priorité n'était pas au café, mais était à l'industrialisation ou au développement d'autres cultures, etc. Donc ça a servi, le café a servi dans la plupart des pays producteurs, après la Deuxième Guerre mondiale, à financer le développement. Et il y a eu beaucoup plus de transferts du secteur du café vers le reste de l'économie que vers le café, même il n'y en a pas eu de transfert vers le café. Le café a été une source de financement pour le développement dans la plupart des pays producteurs. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison qui a permis à l'accord d'exister, c'est que le Brésil, qui représentait, donc, comme je vous le disais au début du XXe siècle, 75% de la production mondiale et encore à peu près 60% après la Deuxième Guerre mondiale, a joué un rôle essentiel en acceptant, dans le cadre de cet accord, de réduire ses exportations quand les autres trichaient avec leurs quotas. C'est ce qu'ont fait les Saoudiens dans le cadre de l'OPEP. L'OPEP a bien fonctionné dans les années 70, début 80, quand les Saoudiens acceptaient de réduire leurs exportations de pétrole quand les autres trichaient avec leurs quotas. Et en fait, un cartel international ne fonctionne... Enfin, c'est, en tout cas, c'est une leçon de l'histoire, de toute façon, ne fonctionne bien que quand il y a un grand pays, le principal pays, qui accepte de jouer ce qu'on appelle le rôle d'offreur résiduel. Il accepte de réduire ses exportations et de compléter, finalement, le marché en fonction de ce que les autres ont exporté. Ce qui permet à l'accord de survivre, sinon l'accord explose très vite. Si les autres trichent et qu'il n'y en a pas un qui accepte d'encaisser les tricheries des autres, en fait, l'accord explose. Et c'est ce qui s'est passé à partir des années 80. Le Brésil avait beaucoup perdu de sa part de marché. Le Brésil ne représente plus maintenant, je pense, qu'à peu près un quart de la production mondiale, si je me souviens bien. Et donc, à partir des années 80, le Brésil n'a plus accepté de jouer ce rôle d'offre résiduelle, de soutien de l'accord. Et l'accord a explosé très vite, en fait. Il y a eu des tas de dysfonctionnements, de cafés, ce qu'on appelait du café touriste, qui passaient dans des pays, qui revenaient. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc... Un accord sur le café est difficilement envisageable aujourd'hui pour ces deux raisons. Il n'y a plus d'offres résiduelles, plus de pays qui accepteraient finalement de payer le prix de la stabilité de l'accord, et il n'y a plus d'office étatique dans les pays qui donnent cette existence comme unité aux pays producteurs de café. Donc, il est très peu probable et vraiment très improbable que dans les 10-20 prochaines années, on voit revenir un accord sur le café. Donc, les prix resteront sans doute instables. Ils ont été relativement soutenus ces quelques dernières années parce que la production est quand même sur le déclin, parce que aussi on a un certain démarrage de la consommation en Asie, sachant que sur les matières premières, ce qui est aujourd'hui déterminant pour avoir un prix de matières premières correct, c'est ce qui se passe en Asie, du point de vue de la consommation. C'est ça le point déterminant. Et pendant longtemps, le café a pâti du fait que l'Asie ne consomme pas de café, ou très peu. En dehors de l'Indonésie, dont je parlais tout à l'heure, la Chine ne consommait pas de café. Le Japon s'est mis un peu à consommer de café, mais bon, maintenant, la consommation stagne. L'Inde consomme un peu de café, a une production de café qu'il consomme. Et donc, c'était une des faiblesses du café. Alors, apparemment, la consommation est en train de démarrer un peu en Asie, donc ce serait sans doute ça. Après, l'autre enjeu mais qui est compliqué à mettre en place, mais auquel contribue en partie le commerce équitable. Le principal enjeu aujourd'hui, si vous voulez faire de la valeur sur le café, d'une certaine façon, c'est de vendre non pas de la matière première, mais de vendre des symboles. C'est avec ça qu'on fait de l'argent aujourd'hui, dans le domaine du café, mais pas dans le domaine du café. Hein. C'est en vendant des symboles attachés à une matière première. Et donc, c'est ce que permet, entre autres, le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un symbole, d'une façon. C'est un symbole. Vous mettez un tampon sur le produit de café, le café il est le même qu'avant, et d'un seul coup, vous avez un café qui vaut 20%, 30% plus cher. Et effectivement, les producteurs s'y retrouvent si une partie de la valeur de ce symbole leur est redistribuée. Alors, l'autre piste qui fait partie du domaine des symboles, hein, en bonne partie quand même, qu'explorent les producteurs de café, c'est tout ce qui se joue autour des terroirs, des cafés d'appellation, hein, sur lequel il y a eu un certain développement, même qui reste quand même assez limité, parce qu'il est problématique par rapport au vin. Il est problématique dans le sens où, contrairement au vin, il y a disjonction entre le lieu de culture et le lieu de production du produit fini. Dans le domaine du vin, ce qui sort du terroir, c'est du vin. C'est le produit fini, il est en bouteille, il sort du terroir. Il y a unité de lieu pour la production de vin. Dans le cas du café, vous n'avez pas une unité de lieu. Le café, il part en café vert et il est torréfié à l'extérieur. Alors, c'est une question qu'il y avait tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu. Il est difficile d'imaginer le développement de café torréfié dans les pays producteurs. Ce qui s'est fait, c'est du soluble. Ceux qui l'ont fait, c'est les Brésiliens. Les Brésiliens ont développé une exportation de café soluble importante, qui va principalement sur la Russie aujourd'hui. Mais en dehors du soluble, c'est compliqué parce que d'une part, il y a un problème de conservation du café torréfié. Le café torréfié est, contrairement au café vert, un produit instable. Il perd une partie de son arôme assez rapidement. Et puis parce que pour faire un bon café, je le redis, il faut pouvoir mélanger. Et c'est difficile de mélanger quand vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça fait des coûts très importants de faire venir du café en Côte d'Ivoire, du café. Alors, généralement, il y a des règles qui interdisent d'importer du café dans les pays producteurs de café, pour des raisons de protection du marché intérieur. Et puis, ça fait des surcoûts très importants de faire venir du café du Brésil en Côte d'Ivoire, puis repartir tout ça en France. Ça ferait des surcoûts très importants.
Oui, bonsoir. Dans le cadre de l'histoire mondiale de la colonisation, qu'est-ce qui différencie le café en tant que matière première des autres ? Est-ce que c'est...
Moi, j'aurais tendance à penser que pas grand-chose, au bout du compte. Pas grand-chose. Finalement, il y a un certain nombre de produits comme ça qui ont...
Des critères qui permettent de différencier les différentes matières premières dans l'histoire de la colonisation. Est-ce que l'esclavagisme, par exemple, a été plus important, évidemment, pour... Cacao, le café.
Non. L'esclavagisme, c'était la norme de production jusqu'au milieu du XIXe siècle. Après, ça a été pendant quelque temps l'indenture, les engagés indiens, chinois. Et puis après, c'est devenu pour l'essentiel en dehors de l'Asie du Sud-Est, donc l'exploitation familiale. Donc on peut pas, il y a pas vraiment de différence là-dessus.
En tant que moteur de la colonisation, quelle est la matière première qui, selon vous, aurait été la plus importante.
Ça dépend de quel point. D'un point de vue, on pourrait dire... Le sucre a été très important. Le sucre a été important parce qu'il a constitué un modèle aussi. C'est beaucoup... Le sucre est sans doute la première culture, historiquement, qui s'est développée dans un cadre colonial européen. Mais le poivre, il y avait... Je connais pas très bien le poivre, je m'excuse, mais il n'y a pas eu de grandes plantations poivrières esclavagistes. C'est le sucre. Oui, c'est ce que je disais. Sur le poivre, je pense pas qu'on puisse dire ça. Le poivre, l'histoire est compliquée. Il y a une production asiatique, indigène asiatique, qui est très forte. Il y a une production esclavagiste, mais arabe, sur la côte d'Afrique de l'Est. Oui. Oui, oui. D'accord.
Chronologiquement.
Oui, d'accord. D'accord, la première.
Je voulais savoir, est-ce que, du fait que c'est une production agricole, est-ce que, à votre avis, c'est un facteur important par rapport à du nickel, par rapport à... Le fait que ça soit agricole.
C'est important, oui, c'est important dans le sens où d'abord le commerce de matières premières agricoles a commencé plus tôt que le commerce de minerais, surtout le commerce à longue distance.
Enfin, il y a ce groupe des épices, d'une façon qui est un groupe dans lequel je pense qu'il faut inclure le café, le cacao, le sucre, qui a joué un rôle structurant, mais dès le 18e, dès le 17e, dès le 16e même, effectivement, et qui va donner lieu donc à la construction de terroirs entiers, à la colonisation d'espaces entiers, etc. Après, à l'intérieur de ce groupe des épices, je crois que les différences, elles sont mineures. Alors après, il y a des rythmes, des moments qui sont différents, les conditions agroécologiques ne sont pas exactement les mêmes, ce qui fait que le café va connaître une massification de la production et donc de la consommation plus tôt que le cacao, parce que il y a eu ce développement de la caféiculture au Brésil au 19e, avec donc une production qui était à relativement bas coût, qui va permettre d'avoir un café de masse plutôt qu'en cacao, qui va se faire pour l'essentiel après 1910 au Ghana, avec le développement de la culture au Ghana, et dans le reste du continent africain. Et donc là, on a un décalage, effectivement, une massification de la consommation en cacao qui est plus tardive. Vous voyez, c'est ce genre de choses, mais attribuer à l'un ou à l'autre une importance plus grande dans l'histoire coloniale, non. Et je pense qu'on a vraiment de bonnes raisons de plutôt essayer de les traiter ensemble et de les analyser ensemble. Merci.